ألف بيت جمل دلت هي فاف زين حيتات يوت كف لمت ميم نون سمخ عين بيت سدي كوف راشين تاف ألف تاف تاف ألف تاف.
Voilà, bah écoutez, c'est une joie de vous accueillir donc dans ce groupe de l'amitié judéo-chrétienne, donc qui se réunit un jeudi par mois, soit l'après-midi, soit le soir, selon un calendrier plus ou moins ésotérique et kabbalistique, mais qu'on peut retrouver facilement quand même. Donc merci beaucoup. Le thème de cette année, c'est le thème de la parole. Le thème de la parole qu'on a essayé d'aborder de différentes manières. Et on avait trouvé précieux d'inviter Shinta, parce qu'il y a un rapport très fort entre, évidemment, la parole et l'écriture. Mais ce n'est pas à moi d'en parler, c'est à vous. Merci d'avoir accepté. On va laisser bien parler Shinta pendant un certain temps. Et puis ensuite, elle nous conduira de manière plus kinésique peut-être sur les chemins de la calligraphie. Merci d'avoir accepté.
Avec plaisir, merci à vous. Merci de m'avoir invité et merci d'avoir choisi ce thème plus que riche en ce qui concerne en tout cas la tradition hébraïque, mais aussi la tradition et aussi la tradition chrétienne. Alors, je vais vous parler d'abord de la parole et ensuite de la calligraphie. Et je commence par vous lire un petit texte qui est issu du Zohar, qui est le livre de la splendeur. Et ce texte nous dit « Quand le Saint, béni soit-il, voulut créer le monde, les lettres étaient encloses. Et pendant les 2000 ans qui précédèrent la création, il les contemplait et jouait avec elles. » Les lettres étaient donc déjà présentes avant la création. L'écriture hébraïque est structurée sur 22 lettres, 22 consonnes. C'est une écriture consonantique. Les voyelles apparaissent plus tard. Chaque lettre a un nom et chaque lettre porte un chiffre qui renvoie à une symbolique. Je vous donne un exemple. Aleph, chiffre 1, qui signifie le maître, le prince et beaucoup d'autres choses, et renvoie à l'unité. En deux mots, parce qu'on peut parler toute une soirée sur Aleph, autour de Aleph. Je reviens à la création. Lorsqu'il décida de créer le monde, l'Éternel, toutes les lettres se présentèrent à lui de la dernière à la première. Peut-être que vous connaissez cette histoire. Chacune vante ses mérites pour créer le monde. Toutes, il les évinça. Par exemple, Shin. Shin est renvoyé parce que Shin fait partie du mot Sheker, qui signifie le mensonge. Il ne peut donc pas créer le monde par cette lettre. Toutes se présentent devant le trône de l'Éternel, et lorsque Beth se présente, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, celle-ci. Lorsque Beth se présente, elle dit « Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, c'est grâce à moi que l'on te bénit. » Baruch, bénir en hébreu. Dans l'en haut et dans l'en bas. Le Saint béni soit-il lui dit « « Certes, oui, c'est par toi que je créerai le monde. Tu seras l'inauguration de la création du monde. » Et ainsi, la création aura lieu sous le signe de la bénédiction, Bracha. Vous imaginez? Bracha s'écrit avec la lettre Bet, la lettre Kaf, la lettre He. Bet, Resh, Kaf, He. Pardon, j'ai oublié le Resh. Comment? Bracha. Bet, Resh, Kaf, He.
Oui, mais tu as montré le Resh et non pas le He.
Alors, je vous l'écris. Je vous l'écris, comme ça c'est plus simple. Bet, Resh, Kaf, He. Je vous l'écris avec deux feutres, mais vous allez aisément retrouver les lettres. Bête, Resh, Kaf, Hé. Bracha. Bereshit au commencement, entre guillemets. Le premier mot de la Genèse commence par Bête. Bereshit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim, et ha shamaim, ve et ha aretz. En hébreu. On nous dit que et, le petit mot, Bereshit bara Elohim, et ha shamaim, ve et ha aretz. On nous dit que ce petit mot qui s'écrit avec la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet, Aleph et Tav, ce petit mot ne se traduit pas. Il n'est pas traduisible, il est intraduisible. Et les commentateurs nous disent que ce petit mot, qui est un complément en fait d'objet direct, il nous explique que ça signifie que Dieu créa avec les lettres, depuis la première Aleph jusqu'à la dernière Tav. Donc vous voyez que dès le premier mot, on nous dit que les lettres ont une importance capitale. On nous dit aussi que créer depuis Aleph jusqu'à Tav signifie qu'il n'y a pas de début ni de fin. Parce qu'à l'origine, les lettres étaient en cercle. Et donc, c'était un cercle qui recommençait en permanence. Donc la création continue d'avoir lieu. Je vais essayer d'être succincte sur certaines choses parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai dû faire un tri assez monumental, je vous avoue. Quelques temps plus tard, Moïse Moshé. Moïse reçoit le Matan Torah, le don de la Torah et les 10 paroles sur le mont Sinaï. Moïse entend, alors Moïse conduit tout le peuple hébreu à travers, Moïse conduit le peuple hébreu à la sortie d'Égypte. Il les conduit hors d'Égypte. Il entend la voix de l'Éternel qui lui dit de monter sur le mont Sinaï. Il y reste 40 jours et 40 nuits. Il s'entretient avec le divin et il redescend avec les tables. Les tables de pierre, burinées, on dit dans le texte, burinées par le doigt divin, taillées, gravées par le doigt divin. Et qu'est-ce qu'il voit en descendant? Je suis sûr que vous le savez. Le veau d'or, le peuple en liesse. Fou de rage, il casse les tables, il les jette de ses mains et les brise au pied de la montagne. Le peuple, ne le voyant pas revenir, s'est impatienté. Il a cru qu'il ne reviendrait pas et il a fabriqué l'idole. Mais l'Éternel le fait remonter, cette fois-ci avec deux tables taillées par lui, Moïse. À nouveau, il les grave, burine de son doigt de feu. La Torah est aussi transmise à Moïse à ce moment-là. Deux écoles disent deux choses différentes. L'une dit qu'il a reçu les cinq livres. Donc vous savez ce que c'est les cinq livres. Le Pentateuque. Donc c'est la Genèse, c'est l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. L'une des écoles dit qu'il a reçu le texte tel qu'on le trouve aujourd'hui, avec des chapitres, avec des versets lisibles. Une autre école nous dit qu'il a reçu toutes les lettres, les unes après les autres, et que c'est lui qui a mis les espaces vides pour que cela crée des mots, des phrases et des chapitres. En tout cas, Moïse a entendu la voix divine. Pendant 40 ans, dans le désert, chaque jour, il avait rendez-vous avec le divin. Les Kohanim, vous savez, c'est les prêtres, les Kohanim, marchaient portant l'arche d'alliance. Alors l'arche d'alliance, il lui avait été dit qu'il devait fabriquer une boîte recouverte, je dis de façon un peu vulgaire, mais voilà, une boîte recouverte d'or, de feuilles d'or, avec des chérubins qui surmontaient cette boîte. Ça s'appelle l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, c'est en fait le temple portatif. Donc les Kohanim, les prêtres, marchaient portant cette arche d'alliance, précédée d'une nuée de poussière et la nuit d'une nuée de feu. Et à la tombée de la nuit, les 12 tribus, les 12 fils de Jacob, se posaient avec l'arche d'alliance au milieu d'eux. Et cette arche était à l'intérieur de ce qu'on a appelé la tente du rendez-vous, Oel Moed. Tout cela a à voir avec l'écriture, vous allez voir. Seul Moïse, avait le droit d'entrer dans cette tente. Il se mettait debout devant l'arche et l'arche contenait des tables gravées des 10 paroles, les morceaux brisés des premières tables, le rouleau de la Torah et la Shekhina. La Shekhina qu'on traduit par la présence divine dans l'absence. L'arche, comme je vous le disais tout à l'heure, était une boîte recouverte d'or et surmontée de 2 chérubins. Lorsque Moshe se plaçait aligné vertical devant l'arche, la voix divine descendait. Arrivée au niveau des chérubins, elle devenait audible pour Moshe et elle instruisait Moshe, toute oreille ouverte. Cet endroit est appelé le Dévir. Et Dévir est en relation avec le mot d'avar qui signifie la parole. C'est pourquoi je vous raconte toute cette histoire. Je vais vous l'écrire, Dévir et d'avar. Dalet, bet, yod, resh. Dalet, Bet, Yod, Resh. Le lieu où la parole devient audible. Davar, on enlève le Yod. Dalet, Bet, Resh.
Est-ce que Moïse seul entendait?
Oui, Moïse seul.
Seul, même s'il y avait les autres tribus autour.
Il était seul dans la tente. Il était seul à avoir le niveau vibratoire suffisant pour recevoir cette parole sans brûler immédiatement.
C'est la voix qui résonnait elle-même ou il entendait au-dessus?
Il entendait la voix qui descendait jusqu'à son niveau pour qu'elle soit audible jusqu'au niveau des chérubins. Donc vous voyez qu'entre la parole et le délire, il y a un yod. On pourrait dire que c'est la parole du yod. Yod est la graine dont tout est issu. La graine qui contient tout et qui commence le nom divin le plus transcendant. Yod, He, Vav, He. Ce petit yod en calligraphie, j'en parlerai plus tard. Vous voyez que c'est la plus petite lettre. Et cette lettre est contenue dans toutes les autres. C'est un point, on pourrait dire, une virgule. Et ce point renvoie à l'origine, au point principe. À l'origine de l'origine, avant que toute chose soit créée, tout était rien. Ça se dit « alim » en hébreu, ça s'écrit « aleph, yod, nun final ». Ici, « aleph, yod » et « nun final », il s'ouvre à la fin d'un mot. Quand le divin Adonai Elohim voulut créer le monde, il lui mit une limite, « sof » en hébreu. sauf, ça s'écrit sa mère, Vav, et P final qui s'ouvre quand il est à la fin d'un mot. Donc, Aïn Sof. La conscience divine se contracte. Alors, en un point, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. Le fait de se contracter en un point crée un vide. Et c'est de ce vide que tout a surgi. Ce point essentiel s'appelle Nekuda Rishon. Il est concentré d'une énergie phénoménale et il explose et projette un rayon de lumière. Un laser, un trait. Du point, le trait. Ça vous fait peut-être penser dans l'art à Kandinsky, point, ligne, plan. Et la lettre iode prend naissance dans ce point et les 22 lettres, les 22 étincelles de lumière jaillissent de ce point. De ce point sont issues les 22 lettres. Je vous lis un petit extrait du Zohar qui nous dit « Les lettres n'ont d'autre origine qu'un petit point. Lettres qui sont les constituants de la Torah. » Ces 22 lettres sont donc comme 22 chromosomes de la création, on pourrait dire. Je vous lis un autre passage, là tiré du livre de Rivka Kremizi, avec qui je travaille, avec qui je collabore depuis 1999, qui a écrit ce livre magnifique, que vous verrez peut-être tout à l'heure, « Splendeur des lettres, splendeur de l'être », et qui est une allusion au Zohar, qui est le livre de la splendeur. Et Rivka Kremizi nous dit « Les 22 lettres sont des vêtements d'énergie subtile et ont pour fonction de matérialiser l'émanation de la lumière divine. » Matérialiser l'émanation de la lumière divine, j'ajoute dans 22 formes particulières, telles que vous les voyez. La création s'est donc faite grâce aux 22 lettres, comme le dit le Sefer Yetzira. Vous avez entendu peut-être parler du Sefer Yetzira. C'est le livre de la formation. Le Sefer Yetzira nous dit les 22 lettres, celles qu'on utilise là, celles avec lesquelles je vais faire de la calligraphie, celles que vous lisez dans la Torah, celles que vous voyez dans les journaux en Israël, les 22 lettres, il les a gravées, taillées, multipliées, pesées et permutées. Et il en a formé toutes les créatures et tout ce qui existe. Tout ce qui a été créé. Donc le divin les a assemblés, combinés, et tout ce qui existe est issu d'une combinaison de lettres spécifiques. Quand j'ai lu ça la première fois, j'étais béate, stupéfaite. Pour revenir aux lettres, je vous lis un petit extrait de Georges Lahy, cité par Rivka Kremizi dans son livre, et qui dit que les lettres portent directement la lumière de l'Aïn Sof. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'Aïn Sof. L'Aïn, le rien limité, illimité d'avant la création. Donc les lettres portent directement la lumière de l'Aïn Sof et la densifient par étapes successives à travers les séphirotes. Alors, je ne vais pas vous parler des séphirotes maintenant parce que ça nous emmènerait trop loin, mais voilà. Et que comprenez simplement qu'elle se densifie, cette lumière de l'origine qui est d'une puissance incommensurable, et que se densifiant, elle passe de l'inconnaissable au connu, puis de la pensée à la parole, pour aboutir dans l'encre. Et c'est ça qui nous intéresse, en ce qui me concerne. c'est ici qu'on entre en scène la calligraphie et moi-même. Alors, je vais vous parler de deux formes de calligraphie. Je vais d'abord vous parler de la soufroute. La soufroute, c'est ce que réalise le sofer. Le sofer, en hébreu, c'est le scribe. Le sofer. Dire d'abord que la tradition hébraïque repose sur le livre. Vous le savez peut-être, hein. Dans la tradition hébraïque, l'image est totalement interdite. Et le livre, la calligraphie, la parole, le texte, les lettres abondent. Cela dit, la Torah n'est pas immense, mais le Talmud et tous les commentaires, c'est des kilomètres à travers les siècles, hein, de commentaires et de sagesse. La tradition repose sur le livre, et le livre se dit « sefer » en hébreu. Elle repose aussi sur le chiffre et sur le récit. Sefer, sifra, sipour, qui sont en fait de la même racine. Vous l'entendez, hein, juste à l'oreille. Le Sefer Yetzira nous dit « Son univers fut créé par trois mesures, le livre, le nombre et le récit. » Et c'est le Sofer qui va le matérialiser, la parole, écrite. On comprend d'emblée que la barre est mise, est placée très haut pour retranscrire ces lettres, ces mots et ces textes qui contiennent l'énergie divine, sa lumière et sa puissance. Ainsi, le sofer, le scribe, est lui seul, est habilité à écrire, à calligraphier la Torah. Il mène une vie d'ascète. Il a suivi une école de soufroute où il a appris la rigueur et toutes les règles importantes. Je crois qu'il y a plus de 800 règles pour tracer les lettres. Rabbi Meir déclarait « Lorsque je me suis présenté devant Rabbi Ishmael, il m'a demandé « Mon fils, quelle est ta profession ?» Et je lui ai répondu « Je suis un sofer, un scribe. » Il m'a alors dit « Sois très appliqué dans ton ouvrage, parce que ton travail est un travail sacré. Si tu oublies une seule lettre, ou si tu rajoutes à tort une simple lettre, tu détruis tout un univers. » C'est cité dans l'Encrier du Scribe, qui est un livre d'initiation à la soufroute. Le sofer est un érudit dans la Torah. Il est désintéressé. Il est animé d'un esprit de vérité. Il est au service total du texte. La beauté de l'écriture joue un rôle important. Il est aussi habilité à écrire les téléphilines et les mésouzotes. Vous savez, les téphilines, ce sont les boîtiers que portent les hommes pour la prière, dans lequel il y a un petit parchemin, et les mezouzotes, mezouza, c'est ce qui est dans le montant des portes, dans lesquelles il y a aussi un petit parchemin calligraphié par le sofer. Seul lui a le droit de calligraphier ses textes. Il prononce chaque mot avant de le transcrire. Il est au service. Avant de commencer son œuvre, il déclare « J'écris ce Sefer Torah, ou Tefilin ou Mezouza, au nom de la Kedusha du Sefer Torah. J'écris cette Torah dans le respect de son sacré et le respect du sacré d'Adonai. » Le sofer prend des bains rituels. Il prie. Il prend des bains rituels pour se purifier avant d'écrire les noms divins. Il prie. C'est un juif pratiquant en général. Cette calligraphie lui demande une totale concentration. Vous savez, le rouleau de la Torah est immense. Il est constitué d'une cinquantaine de feuilles de parchemin. Les règles sont très strictes. deux lettres, par exemple, c'est une règle, deux lettres ne doivent pas se toucher. S'il y a un doute par rapport à une lettre, par rapport à la lisibilité d'une lettre, par exemple, un doute entre le dalet ici ou le resh ici, alors on fait venir un enfant et on demande à l'enfant de lire. Et si l'enfant lit correctement la lettre, c'est bon. Et s'il ne lit pas correctement la lettre, eh bien, il ne peut pas l'effacer. Le sophère ne peut pas corriger la lettre. Il ne peut pas la gratter pour la transformer, parce que ça reviendrait à la sculpter. Et la sculpter, ce serait être dans l'idolâtre. Donc, il doit recommencer sa feuille de parchemin. Vous imaginez, il m'est arrivé, entre nous soit dit, de calligraphier le prix européen des droits de l'homme lorsque j'étais à Strasbourg sur des grandes feuilles de parchemin, donc là en calligraphie latine, et je me suis trompée sur tout un mot que j'ai écrit en français au lieu de l'écrire en anglais, et la peau de parchemin ne s'est pas donnée, et il m'a fallu tout recommencer. Donc je sais ce que ça veut dire.
Mais dans le cas de la Torah, qu'est-ce qu'on en fait si une peau, il y a des...
Je ne sais pas ce qu'il en fait après. En tout cas, il doit recommencer. Pour que le rouleau soit validé, pour qu'il soit cachère, il ne peut pas y avoir d'erreur. Le sophère écrit avec une plume d'oie ou de dinde, une plume d'animal, sur une peau d'animal, vache, mouton, parfois veau mort-né, parfois chèvre aussi, je crois. Il écrit à l'encre sur ce parchemin, et c'est une encre qui est fabriqué spécifiquement pour le rouleau de la Torah, pour les tefillines, pour les mezouzot. Et c'est une encre qui est absolument magnifique. Elle est brillante et elle est comme en relief sur le rouleau de la Torah. J'ai demandé à ce qu'on m'en rapporte de Jérusalem à une époque où je ne pouvais pas y aller. Et en général, c'est des hommes qui vont dans le quartier où on peut acheter cette encre magnifique, qui est brillante, qui est absolument incomparable avec toutes les autres encres noires que j'ai déjà testées. Alors, il y a plusieurs recettes. Il y en a une d'ailleurs de Maïmonide. Il y a plusieurs recettes d'encre. Donc, vous comprenez que c'est un sacerdoce, hein, calligraphier. Il faut savoir que la calligraphie d'une Torah, c'est entre 6 mois et 1 an de travail quotidien. Donc, c'est 6 mois et 1 an à ne pas pouvoir se tromper. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ça demande un alignement incroyable. La calligraphie n'est pas la sauf-route. La calligraphie, c'est ce que je pratique, calligraphie latine et calligraphie hébraïque, c'est ce que je pratique et c'est ce que j'enseigne depuis 1990, ça ne vous rajeunit pas. La calligraphie ne comporte pas toutes ces astreintes liées au sacré du texte fondamental et à sa transmission à travers les siècles. Il faut dire une chose importante, c'est que l'imprimerie n'a pas mis fin aux manuscrits dans le monde juif. Les calligraphes continuent, enfin les sophères continuent en Israël, il y en a beaucoup. Lorsque j'étais à Strasbourg, il y avait une école de sophrote qui a fermé depuis, qui était réservée aux hommes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi quelques femmes qui se lancent dans la sophrote en Israël et peut-être aux États-Unis, en tout cas en Israël, c'est sûr. Mais la calligraphie est plus libre. Mais qu'est-ce que c'est la calligraphie au fond? La calligraphie, alors on nous dit que c'est l'art de la belle écriture. Dans le dictionnaire, hein, vous cherchez calligraphie, voilà, l'art de la belle écriture. L'art de former des lettres qui créent des mots, qui contiennent des idées. Dans toutes les traditions, au départ, la calligraphie, c'est la transcription du verbe, des textes sacrés. Des textes qui relient soit aux religieux, soit aux spirituels. La calligraphie, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit sanscrite, qu'elle soit arabe, qu'elle soit hébraïque, qu'elle soit latine, japonaise et que sais-je, elle transcrit le verbe et la sagesse qui seront des enseignements pour les êtres humains. La calligraphie s'apprend, c'est ce que j'enseigne, aussi bien calligraphie latine que calligraphie hébraïque. Entre parenthèses, je donne un cours à Dijon, une fois par mois, au CCJD, Centre culturel juif de Dijon, le mercredi après-midi. Vous aurez, si ça vous intéresse, ici, de la publicité à prendre. Et venez, je vous invite à venir découvrir la calligraphie. Donc, je disais qu'elle s'apprend. C'est une technique qui est doublée d'une pratique. Ça demande peu de choses. Une plume, un porte-plume, de l'encre et du papier. La calligraphie, c'est des exercices répétés, une régularité et une certaine rigueur. C'est pas parce qu'on n'est pas sophère qu'on laisse la rigueur au placard. Que nenni. Tracer une lettre, et là je reviens aux lettres hébraïques, mais c'est vrai aussi pour les lettres latines, tracer une lettre, c'est tracer une structure, une architecture. De sorte à ce qu'elle laisse passer le vide qu'elle contient. Vous voyez ici, par exemple, à l'intérieur de cette lettre, il y a du vide. Ici aussi, à l'intérieur de ce he, à l'intérieur de ce dalet. Donc, c'est tracer cette architecture pour qu'elle laisse passer le vide qu'elle contient, la lumière qu'elle contient. Un peu comme une église romane. La lettre, si elle est harmonieuse, si elle est juste, elle permet de faire résonner ce vide. Et alors, on peut chanter dans ce vide. On peut laisser passer la lumière à travers les vitraux d'une synagogue. Et le son y résonne comme une musique des sphères. C'est tout ça, une lettre. Une lettre, vous imaginez ? La calligraphie, c'est l'art de donner forme au vide. En fait, 22 formes spécifiques, particulières du vide pour l'alphabet hébraïque et 26 pour l'alphabet de A jusqu'à Z. Mais calligraphier, c'est bien plus que tracer des belles lettres. Vous l'avez déjà compris, je pense. La pratique est un apprentissage de la patience. Un apprentissage de la concentration. Toute distraction fait rater un trait, oublier une lettre, en rajouter une autre, passer une ligne, enfin, tout type d'erreur due à la distraction. Vous savez, je suis en train d'écrire et je pense tout à coup que mon mari n'a pas fait les courses pour ce soir et qu'il va falloir que je les fasse après la calligraphie. C'est suffisant. Une pensée et la lettre est ratée. C'est une école de non-attente. Non-attente d'un résultat, la calligraphie. Plus j'attends que ce soit beau, moins ça l'est. Et la calligraphie permet de se centrer. Les deux pieds par terre, assis très correctement, le dos vertical, les coudes écartés, pour laisser circuler l'énergie à l'intérieur de nous, jusque dans la main et dans l'encre. C'est aussi un apprentissage de la respiration. La respiration consciente qui va donner forme et vie aux traits et aux lettres. C'est aussi un travail et un apprentissage de la posture qui permet un geste libre. C'est le travail de l'énergie et de la dynamique d'un trait plus un autre qui donne une lettre. Tout ce travail, bien que dans le côté travail, il y a quelque chose de laborieux, donc c'est pas ça. C'est toute cette pratique, en fait, permet d'expérimenter la présence à soi-même. Je suis présente à ce que je fais. Tout entier, tout entière, je suis réunie à la pointe de ma plume. Alors le geste juste apparaît dans l'oubli de soi, dans l'acte lumineux d'inscrire une lettre, un trait, dans la matière papier. L'acte devient plus important que le résultat, qui malgré tout s'ajuste petit à petit, qu'un cas, à l'état intérieur du calligraphe et progresse vers une justesse. La calligraphie devient alors une méditation. Je pense que le sophère sait cela. Une méditation issue du non-vouloir, de l'acceptation de ce qui est, des erreurs auxquelles on ne s'identifie plus. Parce que vous savez, au début, « Oh, j'ai raté, c'est moche, je suis nul. » Mais non, non, t'es pas nul. C'est moche. On va dire que c'est maladroit. Mais tu es, de toute façon, plus beau, plus grand et plus merveilleux que les lettres ratées que tu viens de faire. Et plus tu vas les écrire, plus tu vas les calligraphier, et plus elles seront justes. Alors ne t'identifie pas à ce que tu fais. Tu es, et tu es pleine de cette lumière divine qui est en toi. Donc, dans ces conditions-là, le temps n'existe plus. En calligraphie, on oublie le temps, on oublie l'espace, on oublie tout. Après une longue pratique, le calligraphe zen, vous savez, ceux qui pratiquent le calligraphe zen, on le voit assis devant un tapis au sol avec un grand rouleau et des pinceaux, et lui va calligraphier au pinceau, et d'un bond, ça jaillit. L'énergie qu'il contient est libérée en quelques secondes, le mot sort en quelques secondes, plus 40 années de pratique. Juste pour mettre une petite échelle. Parce que ça a l'air de rien, c'est tellement simple quand on voit. Vivant le mot, vibrant, prêt à sortir de la feuille. D'où ça vient ? C'est le souffle. Le souffle qui a été insufflé dans les narines d'Adam, le Nishmat Raïm, on dit en hébreu. Ce souffle qui circule libre jusque dans les mains du calligraphe et qui donne vie aux lettres. Ce souffle, c'est le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et le calligraphe est le médium entre les deux. Il s'affine, ce souffle. Il inspire le calligraphe qu'il expire dans sa création. C'est alors un dialogue qui s'installe entre le visible et l'invisible. À partir du vide de la page, qui est un reflet du vide originel. Vous me suivez ? Vous êtes là ? Oui ? Non ? C'est trop de choses peut-être. Le calligraphe habite ce vide. Il le fait vibrer par les formes qu'il lui donne.
C'est pas valable pour tous les alphabets quand même aussi.
Ben là, je vous parle de l'alphabet hébraïque en particulier. C'est vrai aussi pour l'alphabet de calligraphie latine, mais la grande différence entre les deux, c'est que l'alphabet hébraïque, et chaque lettre est pleine de sens et de symboles, et que Dieu s'est servi de cet alphabet pour tout créer. Donc comme cet alphabet existait déjà, on a vu tout à l'heure qu'il jouait avec cet alphabet avant la création, cet alphabet est empreint de l'énergie originelle qui est en nous, puisque nous sommes créés avec ces lettres. Vous, monsieur, moi, toi, le sol, la table, la chaise, le ciel, les arbres, tout est créé avec ces lettres. Donc cet alphabet est particulièrement puissant.
Alors, cet alphabet-là, en fin de compte, c'est le même que sur les fameuses tables.
Alors, il y avait peut-être quelques différences, parce que le proto-hébreu et le paléo-hébreu était un peu différent. Ça remonte à il y a quand même quelques milliers d'années, mais c'est quand même ce qui a donné cet alphabet-là, enfin cet alphabet et d'autres alphabets, ce qui a donné ce qu'on appelle l'hébreu carré. Donc je disais que le calligraphe habite ce vide quand on est devant la page blanche, vous savez, et que il est finalement à l'image du divin, image entre guillemets, Tselem Elohim. Et Tselem Elohim est traduit souvent par image, d'autres le traduisent par résonance. Ce vide originel à partir duquel il va créer, et nous, la page blanche à partir de laquelle on va poser un point, un trait, une ligne, un mot. Le point originel d'où tout découle, le fameux yod, qui est contenu dans toutes les autres lettres, comme je vous le disais tout à l'heure, et dont toutes les autres lettres sont un développement, ce yod s'écrit yod, cette lettre, vav, celle-ci, dalet, et il est tracé par la main, qui se dit yad. Vous entendez que ça sonne pareil. Yod, dalet. Il n'y a pas de vav. Et la main trempe la plume dans l'encre. Vous voyez, là, j'ai quelques encres. Et l'encre se dit dio. Dalet, yod, vav. Vous repérez que ce sont les mêmes lettres. C'est intéressant. L'encre, et ça plusieurs traditions le disent, la tradition hébraïque, mais aussi la tradition arabe et d'autres traditions, l'encre contient l'essence de toutes les lettres dans l'encrier. Toutes les lettres sont contenues dans l'encrier, toute la création à venir. Mais il est nécessaire d'aller tremper sa plume dans l'encre pour sortir et donner vie à chacune des lettres. Ainsi, le calligraphe est directement en lien avec la source dans sa création, avec le 1, l'unité. L'unité, le 1, se dit Echad. Et Echad est de la même Gematria. Gematria, est-ce que vous savez ce que c'est, Gematria? Alors, je vous dis très rapidement, dans la Kabbale hébraïque, chaque mot, je vous ai dit tout à l'heure, chaque lettre, pardon, est un symbole et porte un chiffre. Quand on additionne les chiffres d'une lettre, d'un mot, pardon, ça nous donne une somme chiffrée. Donc, par exemple, le mot « Echad », ça nous donne la somme chiffrée de 13. Et on nous dit dans la tradition que lorsque deux mots ont la même somme chiffrée, ils partagent le même mystère. C'est magnifique, déjà on s'envole, ça fait rêver. Or, il se trouve que Echad, l'unité, a la même gématria qu'un autre mot que vous connaissez peut-être, Ahava, qui signifie l'amour. Et alors, on nous dit que l'unité et l'amour, ça a à voir ensemble. Donc je vous laisse imaginer le lien entre unité et amour. Je disais que le calligraphe était directement en lien avec la source dans sa création, avec le 1, l'unité, même Gematria que Ahava, qu'il transmet par ses poignets, ses mains. Et dans la médecine chinoise, on nous dit que les poignets et les mains sont l'ambassadeur du cœur. Donc le calligraphe est en lien directement avec son cœur, avec l'amour, en traçant tout ce qui est en lien avec l'unité. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit que Echad, 13, plus Ahava, 13, eh bien si j'additionne, ça donne 26. Et 26, vous savez peut-être à quoi ça correspond. 26, c'est le tétragramme Yod, He, Vav, He. Donc le calligraphe, vous voyez, qui se met dans la verticalité et qui est en lien avec l'unité, avec tout son cœur, avec tout son amour pour les lettres, avec toute sa personne, avec tout son être, il touche quelque chose du nom le plus transcendant et du divin, Yod, He, Vav, He. C'est donc la résonance divine que le calligraphe conscient insuffle à sa création. La paix, l'harmonie, la lumière, l'amour. Alors son œuvre est le fruit d'un chemin. Je ne vous dis pas ce qu'il y a dans chemin. Shem. Un autre nom divin, là en français, hein. Chemin, Shem. Son œuvre est une œuvre de contemplation à ce moment-là. Son œuvre est une œuvre de guérison pour celui qui la regarde. Elle vient nourrir, appeler, titiller la part divine de celui qui la contemple. Elle vient titiller sa joie profonde. Ce en quoi le calligraphe est co-créateur. Nourri par le texte qu'il magnifie, il en donne son interprétation unique, vibrante par l'énergie qu'il traverse du monde d'en haut jusqu'au monde d'en bas. Calligraphier aujourd'hui en hébreu, ou apprendre à calligraphier, c'est entrer dans un univers qui porte une histoire et une mémoire vivante. Nous sommes en 5786. Donc vous voyez que l'histoire est longue et la mémoire intacte. Intacte parce que c'est une énergie vivante que contiennent les lettres. C'est donc entrer dans un monde de symboles. Plusieurs lettres dans un mot, vous savez que chaque lettre, vous l'avez compris, est porteuse de sens. Plusieurs lettres dans un mot donnent du sens, des sens. Et renvoie à l'essence. Le découvrir tout en calligraphiant nous rend plus vivants. C'est comme entrer dans un univers avec une épaisseur, avec un volume sonore. Les lettres qui n'ont pas bougé dans la forme définitive depuis plus de 2000 ans, ces lettres sont des ondes de forme dans le langage actuel. Enfin, c'est pas qu'actuel. Leur géométrie. Chacune des lettres, dans leur géométrie, leur structure, leur forme, ces lettres sont vibratoires. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de thérapeutes utilisent les lettres hébraïques pour soigner.
Ça marche.
Ça marche. Quelqu'un peut vous en dire quelque chose après, ici. Les calligraphiés hautes en couleur, vous pouvez voir trois petites calligraphies que j'ai apportées là-bas. Les calligraphiés, c'est déjà un soin qu'on se donne à soi-même. En conclusion, s'il est un point commun entre la calligraphie hébraïque et latine, puisque je pratique les deux, puisque nous sommes là deux communautés, chrétiens et juifs, s'il y a une chose de commune, c'est bien la parole et le souffle. Le souffle qui prend forme et voix dans la parole, le souffle qui prend voix et forme dans la parole, le verbe, et le souffle qui donne forme et vie aux lettres, afin qu'elles ne soient pas lettres mortes, vous comprenez ? C'est le souffle de l'origine. Le souffle par lequel nous sommes vivants. C'est Rouar, l'esprit, qui traverse la parole et la calligraphie afin qu'elle reflète la beauté originelle. Et je termine par une citation. La calligraphie est un grand art initiatique basé sur la circulation du souffle avec un S majuscule. Sous-entendu, le souffle, c'est ce qui prend le relais de la respiration. Et c'est de Karfung Wu, Garfunkel Wu, qui fut le maître, je dis qui fut parce qu'elle a quitté ce plan il y a quelques mois, et qui fut aussi mon enseignante de Qigong, grande enseignante de Qigong et de calligraphie chinoise. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous.
Merci.